J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Bartas 107 FM. Et bonjour Virginie.
Bonjour Margot.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Virginie ?
Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer Luc Amestre. Il est chargé de mission forêt et innovation au syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles. Il va nous présenter en fait des recherches autour des tanins de châtaignier. Et ensuite, eh bien, le fameux Aymeric Sulmont, garde-moniteur du parc national des Cévennes, nous parlera de nouveau de petits grignoteurs de bois.
Bonjour Lucas.
Bonjour Margot et bonjour à Virginie.
Est-ce que tu peux nous présenter du coup le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles et te présenter toi et tes missions au sein de ce syndicat ?
Alors le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles vient de fêter dernièrement, le mois dernier, ses 30 ans. Et donc le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles regroupe, se situe sur deux départements, entre le Gard et la Lozère. Et le syndicat regroupe 20 communes qui donc sont adhérentes à ce présent syndicat. Et pour vous situer globalement, pour que vous ayez en tête le territoire, le syndicat s'opère entre le côté Lozère-Saint-Germain-de-Calbert jusqu'à Saint-Étienne-Vallée-Française et Vialas au nord. Et ensuite, dans le Gard, on est plutôt du côté de Bonnevaux jusqu'à Mialet. Et donc, le syndicat porte des missions, une vision globale et expérimentale sur l'ensemble de notre écosystème et de la biodiversité. Le syndicat de Hautes-Vallées-Cévenoles porte une vision, donc, a été créé sous l'égide et en lien avec le parc naturel des Cévennes, le parc national des Cévennes, via la politique Manen Biosphère de l'UNESCO. Et donc le PNC, donc le parc national des Cévennes, a mandaté le syndicat et donc a été créé à partir de cette volonté-là. Et donc on a suivi cette directive-là. Les compétences du syndicat sont notamment autour de la forêt, bien évidemment, de l'agriculture, les politiques de maintien d'installations agricoles sur le territoire, mais également la question de la transition énergétique. Donc le suivi et le conseil auprès des communes pour notamment tout ce qui est chaufferie bois notamment. Il porte également des visions donc sur les politiques également sur j'ai perdu le fil.
C'est pas grave.
On pourra couper. Ouais, on pourra couper. Ouais. J'ai perdu le fil de ce que je voulais
dire. Arrêté à transition énergétique avec les chaufferies bois.
Oui, c'est ça, transition énergétique. Et donc également, le syndicat possède deux sites Natura 2000 sur son périmètre. Donc le premier site sur la vallée du Galaison et le second site qui se situe en Haute-Cèze, sur le département du Gard. Et donc moi, mes missions sont notamment sur la question forestière. Donc je travaille sur trois projets principaux. Donc le projet dont on va parler sur les tanins de châtaignier, notamment sur le suivi de ces projets-là. Le syndicat porte également la politique d'un projet de la multifonctionnalité des forêts. Donc conseiller notamment au plus possible les propriétaires forestiers privés et également auprès des communes adhérentes des politiques en matière de gestion forestière et de suivi de ces forêts-là. Et puis également, j'ai une troisième mission sur la DFCI, sur le réseau donc de pistes d'incendie, donc de défense contre l'incendie. Et le syndicat a cette compétence-là, sur les communes gardoises seulement, de gérer, d'entretenir et de maintenir l'état du réseau des pistes DFCI en l'état.
Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler du châtaignier. C'est une essence emblématique des Cévennes. On remarque au niveau forestier qu'elle est de plus en plus en mauvaise santé au-dessous de 600 mètres d'altitude. C'est les conditions climatiques qui font remonter finalement le châtaignier. Alors on précise quand même que dans cette émission ou dans toute émission de Palabre en forêt, lorsque nous on parle de châtaignier, on ne parle que du châtaignier bois. On ne parle pas du tout du châtaignier griffé qui est une essence fruitière. Voilà, ça forme des vergers et non des forêts. Alors, Lucas, pourquoi le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles s'est intéressé aux tanins de châtaignier ?
Alors, c'est une histoire qui remonte maintenant aux années 2010, donc précisément à partir de 2014, notamment par une personne qui s'appelait Jurs Jacobs, donc un ancien élu sur le territoire Cévenol, et qui avait, donc avec son association Bois Cévenol, le souhait, en tout cas, avait pris en conscience de la nécessité de devoir faire quelque chose de cette forêt-là présente et qui a de nombreux atouts à faire valoir. Et donc, cette prise de conscience-là a été portée en 2014 par cette association-là. Le syndicat, par la suite, a embrayé, si je puis dire, à travers cette politique. Et donc, deux ans après, en 2016, en lien avec notamment les chercheurs de l'INRAE de Montpellier, le syndicat a suivi donc, cette politique-là et on a pu constater que le châtaignier, et notamment le tanin par la suite, avait une filière de valorisation possible. Et donc, suite à cette réflexion-là avec les chercheurs, etc., on a pu avoir la possibilité de partir sur cette voie-là de valorisation. Et il en est découlé, à partir de 2016, également, une thèse donc, de Valeria Karaseva, en lien donc, également qui faisait cette thèse avec l'INRAE, et Hélène Fulcran de l'INRAE de Montpellier. Et donc, le syndicat a suivi et a cofinancé cette thèse. Donc, on a eu cette volonté-là au syndicat de pouvoir suivre et coller au plus possible à la réalité et donc au suivi et aux résultats potentiels de cette thèse. Et donc, on s'est aperçu à partir de cette thèse-là que les tanins avaient des propriétés essentielles, notamment la propriété d'être retardante au feu. Et donc, c'est une voie de valorisation très importante et que l'on souhaite mettre en place dès à présent, qui est déjà, à partir des projets qui sont déjà en cours et ceux à venir, qui est déjà une volonté concrète des élus du territoire et du syndicat. Et donc, le syndicat suit cette voie-là, cette perspective-là, et elle est très intéressante.
Et du coup, on parle du tanin de châtaignier, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et à quoi ça sert pour l'arbre ?
Alors, je vous dirai quelques éléments de comme ça. Je ne suis pas un expert proprement forestier, mais après je peux dire en tout cas que le tanin a une particularité d'être une protection pour l'arbre, notamment contre les ultraviolets et le rayonnement solaire. Et également a des propriétés importantes sur cette protection des arbres que nous avons sur notre territoire.
Et tu as parlé donc d'une propriété retardant le feu. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations qui peuvent être faites par l'homme ?
Alors oui, effectivement, on s'est aperçu, suite donc aux éléments de recherche qui ont été amenés petit à petit sur le devant de la scène, on a pu se rendre compte que les tanins avaient des propriétés intéressantes au niveau de la nourriture animale pour les ovins et bovins. On a également fait une visite donc, sur le terrain auprès d'une chèvrerie en Ardèche qui est déjà dans cette optique-là et travaille notamment avec un lycée agricole dans cette perspective-là. Et donc on voit qu'il y a la possibilité de l'utiliser en nourriture animale et également dans les produits cosmétiques où quelques entreprises sont intéressées par ce système-là. Et on a conscience que c'est une voie de valorisation également possible pour les tanins châtaigniers.
Et alors, du coup, actuellement, quel est le projet que vous développez ? Quels sont vos partenaires ? Voilà, où est-ce que sont en est les recherches ?
Alors, les recherches, aujourd'hui, elles sont bien avancées dans la mesure où, donc, On a plusieurs projets qui sont en cours, donc les projets Modestine par exemple, les projets Tetrae, les projets Biocoque également, donc c'est des anachronismes que je ne vais pas spécialement vous citer là, mais pour vous situer globalement les projets qui sont en cours, et donc notamment pour vous parler du projet Modestine qui a déjà été lancé et accepté au niveau de la région Occitanie, nous sommes déjà dans une perspective de collecte de bois qui a déjà été effectuée donc, sur 3 sites qui ont été choisis auparavant, donc un site sur Serre-Romande-Codière dans le Gard, un site sur la vallée du Galaison et un autre site sur la vallée de la Marre dans le département de l'Hérault. Et donc on s'aperçoit que donc, ces projets sont en cours et sont déjà mis en place. La collecte de bois a été faite et donc ce projet s'articule jusqu'à 2026. Donc pour l'instant, nous sommes dans cette démarche-là de collecte de bois qui a été envoyée du coup à l'INRAE et également dans un établissement situé en Haute-Pyrénées à Tarbes où, qui mènera aussi des études à ce niveau-là.
Pour extraire les tanins, c'est ça, et voir leur composition.
C'est exactement pour voir leur composition, notamment voir leur extraction aussi. Mm-hmm. Donc on s'aperçoit que la manière, en tout cas la plus techniquement possible pour les bois que nous avons, c'est la technique de l'extraction bivis. Donc, et on s'aperçoit qu'on a des capacités possibles à partir de cette technique-là.
Alors moi j'ai appris récemment que sur le territoire en fait la filière tanin elle existait déjà il y a de nombreuses années voire au siècle passé et que l'extraction elle n'était pas très écologique. Les anciens ils nous rapportent que les cours d'eau ils étaient assez affectés par cette filière là. Est-ce que le projet en cours il prévoit de pallier à cette problématique? Est-ce que les extractions elles sont plus écologiques que du coup dans le passé?
Alors effectivement par le passé les habitants du territoire notamment les Sévenols ont cette idée garder en mémoire depuis très longtemps que, et peut-être à juste titre, certainement que les tanins étaient pas très écologiques, du moins rejetaient beaucoup de substances nuisibles dans les cours d'eau, notamment. Et donc on s'est aperçu, et donc à travers ces projets-là, on essaie au minimum d'épuiser au minimum les ressources, donc ces projets-là engagent et sont notamment très ergonomique, en tout cas, ils ont pris cette option-là et sont de plus en plus donc de plus en plus écologiques. Et l'idée également, c'est notamment à travers ces sites-là d'extraction et de collecte de bois, c'est de faire des petites unités et de pas centraliser, de faire de grosses structures sur le territoire, mais de mailler au plus possible le territoire avec des petites unités de production et donc en effectuant des circuits courts et pour être le plus possible raccord sur le territoire et éviter d'avoir des projets qui soient nuisibles pour notre écosystème.
Et alors, tu nous as parlé qu'il y avait une récolte de bois en cours pour des analyses sur la composition des tanins et améliorer son extraction. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres étapes cette année dont tu voudrais nous parler?
Alors oui, effectivement, cette année, il faut savoir donc, que ces projets sur les tanins regroupent donc, le département du Gard et de la Lozère, mais on s'est aperçu, et à juste titre, que le territoire sévenol ne s'arrête pas uniquement à ces deux départements, mais aussi au département de l'Ardèche. Et donc à cet effet, ce projet-là, et je vous parlais justement de la chèvrerie du Pradel qui se situe sur Saint-Germain, la commune de Saint-Germain en Ardèche, et donc on s'est aperçu que ce projet-là pouvait être interrégional, et du coup on a intégré également donc, cette partie-là du territoire, donc côté Cévennes, côté Ardèche, pardon. Et donc ces projets-là sont aujourd'hui, les étapes qui auront lieu cette année sont plutôt dans l'ingénierie, dans la mise en place de l'ensemble des processus de collecte, notamment de sensibilisation. Et donc aujourd'hui, les étapes qui sont prévues dans le courant de cette année-là sont plutôt de cet ordre-là. Mener une réflexion plus importante encore et dans la collecte des partenaires qui pourraient être intéressés, des entreprises locales qui souhaiteraient également s'intégrer au projet. Donc aujourd'hui, nous avons quand même des bonnes étapes qui sont prévues et c'est très réjouissant.
Et pour finir, on a une petite tradition, on aime bien demander si les invités ont un petit mot forestier pour conclure. Donc du coup, quel serait ton petit mot forestier que tu aimerais nous partager?
Et moi, ce serait plutôt un souvenir, puisque je suis sur le territoire sévenol depuis mon enfance. Et du coup, moi, côté plutôt Ardèche, donc un petit voisin, si on peut dire.
On ouvre les frontières.
Voilà. Et donc, maintenant, en plus de 20 ans de présence sur le territoire de façon alternée ou non, mais j'ai pu voir le bouleversement des paysages et un petit peu la philosophie, en tout cas, ce profil en tout cas du paysage qui a évolué dans le temps avec la disparition de plus en plus du châtaignier qui était très présente même sur les localités à 450 mètres d'altitude où je me situe. Et donc c'est vrai que j'avais ce souvenir là notamment du châtaignier très florissant et bien sain entre guillemets, et c'est vrai qu'aujourd'hui
vigoureux,
et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, et c'est vrai que c'est un constat pas forcément d'échec, mais c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance qui est toujours présent, et donc ça me pousse en tout cas à me poser la question de savoir qu'il est nécessaire quand même de prendre soin de la biodiversité, de maintenir en tout cas les espaces du mieux possible sains. Et donc voilà, c'est intéressant en tout cas de pouvoir participer à travers mon activité professionnelle à ce processus-là et de y prendre un peu sa part, comme disait Pierre Rabhi.
Merci beaucoup Lucas de nous avoir fait découvrir ce sujet passionnant qui est la valorisation des tanins de châtaigniers, et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Et vous êtes toujours sur Radio Bartas 107 FM, c'est le moment de la pause musicale, on quitte un moment la forêt pour rejoindre le groupe des Foo Fighters avec le titre Times Like This pour un petit hommage à Taylor Hawkins.
like these you learn to love again. It's times like these, time and time again.
Bonjour Aymeric Soulmont, tu es garde-moniteur au Parc National des Cévennes et tu vas nous présenter ta rubrique « Plantes et animaux des bois ». Aujourd'hui, comme on vient de parler de châtaigniers et du tanin qui protège le bois, tu vas nous parler des insectes xylophages, donc les grignoteurs de bois et de bois mort, inféodés peut-être aux châtaigniers.
Oui, c'est ça. Et on a déjà parlé récemment des xylophages du pin. Et là, j'avais envie de faire un petit topo sur quelques bêtes typiques du châtaignier qu'on a déjà récoltées dans le parc des Cévennes. Et puis rebondir un peu sur l'intervention de Lucas, qui était très intéressante hein, sur le tanin en Cévennes. Et peut-être refaire moi, ça me paraissait intéressant de faire un petit topo historique sur l'exploitation massive des bois pour le tanin dans les années 30 jusqu'à dans les années 60. Et qui a conduit, en fait... à la progression énorme du pin, puisque à l'époque, le châtaignier commençait à être malade, le châtaignier fruitier. Il a donc été exploité pour valoriser le tanin. Et il y avait aussi plus de main-d'œuvre entre les deux guerres hein, pour ramasser le châtaigne comme on le ramassait autrefois. Donc c'était une façon d'exploiter cette ressource-là. Et aujourd'hui, ça a conduit à deux phénomènes qu'on a. C'est l'omniprésence du pin. Des pins, en fait, du pin laricio et du pin maritime dans le paysage cévenol, qui en fait ont profité de cette ouverture de la châtaigneraie pour s'installer derrière les châtaigneraies qui avaient été coupées. Donc il faut avoir toujours un regard historique sur l'histoire de la végétation des Cévennes pour comprendre comment l'exploitation d'une ressource a un impact derrière. Et donc c'était pas pour critiquer, mais c'est juste faire attention comment on va exploiter cette ressource. Et puis un petit topo aussi sur l'évolution aujourd'hui climatique des peuplements. Et chacun a pu déjà observer de son propre chef ces 10 dernières années les habitats évoluent. On voit le châtaignier non pas monter, mais plutôt disparaître des basses altitudes. Et évidemment, il serait opportun de le planter un peu plus haut. Mais il va disparaître plus vite de basse altitude qu'il ne va grimper en hauteur. Et c'est ça la problématique, c'est que on meurt plus vite qu'on naît pour un arbre. Et vous avez les mêmes phénomènes en fait qui sont observés sur le chêne vert, qui dans des coins très secs et chauds disparaît et peut mourir et va être remplacé par des non plus des bois mais des formations beaucoup ligneuses basses qu'on appelle des matorrales. Alors dans le matoral on y voit souvent des cystes, on y voit des bruyères arborescentes, des choses qui sont relativement inflammables. Mais bon, c'est une autre biodiversité qui s'installe. Et donc, si vous voulez, pour faire un espèce d'évolution, vous avez, en partant plutôt carrément du hêtre. Le hêtre, on voit aussi, on observe déjà des mortalités importantes à sa limite altitudinale, autour de 900-800 mètres. Il va laisser progressivement la place au châtaignier, mais encore faut-il que le châtaignier soit présent pour qu'il prenne sa place. Donc il y a cette évolution-là. Le châtaignier lui-même, à sa limite altitudinale en dessous de 600 mètres, eh ben, il laisse progressivement la place au chêne vert ou au pin, au pluriel. Et puis pareil, le chêne vert, en dessous de sa limite ou dans des coins très chauds, il disparaît, il laisse sa place aux cystes et aux bruyères. Donc il y a vraiment une évolution plutôt vers des habitats plus méditerranéens, plus adaptés à la chaleur. Et on voit ça plutôt sur tous les versants sud que sur les versants nord. En fait, il faut bien comprendre que le réchauffement climatique est en train de s'observer. Il est nettement plus rapide sur les parties qui sont en plein soleil que sur les parties versants nord qui sont tamponnées par un microclimat. Et donc, c'est là où il faut être très prudent sur l'exploitation forestière de tous les versants qui sont soumis à un climat chaud. C'est que ça réagit très vite. Voilà, si on a tendance à trop exploiter, l'habitat peut très vite être dégradé vers des habitats très inflammables, comme je disais, le matoral à bruyère arborescente et à ciste, c'est extrêmement inflammable. Et donc c'est là où l'idée d'une exploitation des forêts à couvert continu fait vraiment doit être vraiment la solution à privilégier parce qu'elle permet de sauvegarder les sols et de tamponner un tout petit peu, si possible, le réchauffement climatique. Mais bon, après, il faut que les arbres résistent à la sécheresse. Et on voit que bon, les forestiers choisissent des nouvelles essences de plus en plus adaptées, mais ouais, il va falloir évoluer très vite. Voilà, ça c'était un petit topo voilà, sur les choses auxquelles il faut faire attention dans l'exploitation forestière des Cévennes, parce qu'on voit que ça évolue vite. Et ça me permet de rebondir, puisqu'on parlait de châtaigniers, sur des bestioles qui sont typiques du châtaignier. Nous, au parc, on a un groupe qui s'intéresse aux coléoptères. Et on fait chaque année des inventaires dans différentes forêts. Notre but, c'est d'avoir, si possible, un inventaire le plus exhaustif de toute la faune qui s'occupe de manger le bois mort des Cévennes. Donc, dans tous les habitats forestiers des Cévennes, on va essayer, sur un pas assez long, parce qu'on n'est pas nombreux non plus à étudier ça, d'avoir une idée assez précise de quels sont les coléoptères typiques de la hêtraie, quels sont les coléoptères typiques des forêts d'épicéas, des forêts de sapins, des forêts de chênes, des forêts de châtaigniers, des forêts de pins, etc. Et donc, on place notamment des pièges pour récupérer ces coléoptères et les étudier. Donc, dans les châtaigniers, on a une faune de coléoptères qui est très particulière et qui est très commune avec la faune des chênes, puisque ces deux arbres ont pas mal de points communs, et entre autres la présence de tanins, justement. Ces tanins qui vont avoir un rôle très sélectif dans les ravageurs, comme dans les champignons. Les ravageurs et les champignons doivent tolérer ce tanin pour passer. Donc c'est une première étape à passer. Et les tanins c'est un élément limitateur, en fait, des ravageurs. C'est un peu pour ça aussi, d'ailleurs, que le châtaignier a beaucoup moins de ravageurs que d'autres essences et qu'il est réputé imputrescible. C'est qu'il est un petit peu aussi sauvé par ses tanins très puissants. Du coup, je vous présente trois bêtes. Alors, il y en a une que tout le monde connaît. Tous ceux qui ont ramassé... Tous ceux qui ont ramassé des châtaignes l'ont vu parce qu'ils ont râlé après lui, parce qu'il faisait des trous dans les châtaignes et ça faisait des vers et c'est vraiment désagréable. Parce que du coup, la châtaigne a un très mauvais goût et il faut surtout pas la cuire et fabriquer une confiture avec parce que du coup, le goût est très très mauvais. C'est le balanin de la châtaigne ou le charançon de la châtaigne qu'on appelle aussi le balanin éléphant. Alors pourquoi balanin éléphant? Parce que c'est un petit coléoptère qui est pas très gros mais qui a une trompe. Un rostre en fait extrêmement long qui est beaucoup plus long que lui, et ce rostre en fait c'est on l'appelle aussi ovipositaire, ça lui sert à perforer l'enveloppe de la bogue pour aller planter ses œufs dans une châtaigne. Et il fait ça quand la châtaigne est la bogue est encore verte et piquante. Et le rostre ne sert pas à pondre, hein, il sert juste à perforer. Et ça fonctionne exactement comme un perforateur. Alors quand on voit un balanin faire son travail, il perfore pas, il tourne, il plante son rostre et il tourne autour de son rostre comme une visseuse pour percer. Et il doit tourner au milieu d'une bogue et c'est très compliqué pour lui.
Quel artisan. Il est gros,
Non, ça fait moins d'un centimètre. Hein. C'est vraiment D'accord. quelques millimètres de long. Et il est extrêmement présent en Cévennes parce que dès lors qu'il y a des... Voilà, vous avez tous rencontré ces trous dans les châtaignes. Et donc, une fois qu'il a fini son trou... Ensuite, il se retourne et la femelle tâte avec son arrière-train pour poser ses œufs dans le trou qu'elle vient de faire. Okay. Hein, donc, c'est une opération assez compliquée.
C'est un travail collaboratif, quoi.
Oui, en fait, voilà, elle a deux outils. Elle a à la fois un perforateur, si on veut, à l'avant, et puis un organe pour pondre ses œufs. Voilà, ça c'est donc le petit balanin des châtaignes, mais qui n'a rien à voir finalement, il n'est pas xylophage, hein, c'est un mangeur de châtaignes qui pose un certain nombre de problèmes, ça dépend des années en fait, voilà, et ça dépend de la santé des arbres. Et il y a des variétés qui sont plus soumises à lui, oui, exact, aussi. Je voulais vous parler voilà de la star en fait des coléoptères de la châtaigneraie qui lui effectivement est un vrai xylophage, c'est le grand capricorne. Le grand capricorne, c'est un insecte qui fait 6 cm de long, qui est principalement noir avec des reflets un peu métalliques si on veut. Et 6 cm de long, c'est que le corps. Si vous rajoutez les antennes, ça dépasse facilement 10 cm parce que les antennes sont extrêmement longues. Et cet insecte se nourrit du bois mort de châtaignier. et la femelle vient pondre en fait dans une blessure du bois, de façon que les œufs puissent trouver un passage vers le bois mort. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Un arbre blessé par tout un tas de travaux forestiers est une porte ouverte à des dégradateurs. Donc c'est toujours, quand on fait des travaux en forêt, ben moins on blesse les arbres et moins on les fragilise à l'arrivée de ravageurs, que ce soit des champignons ou des coléoptères. Donc c'est un des rares coléoptères protégés, le grand capricorne. Et pour faire un petit topo d'ailleurs sur la protection des coléoptères, c'est ridicule en France, puisqu'on a à peine une petite dizaine de coléoptères protégés en France sur 10 000 espèces. Si on compare avec les mammifères, c'est bien au-dessus, ou même ne serait-ce que les papillons, vous avez plus d'une vingtaine d'espèces de papillons protégées en France sur à peine 300.
Comment tu expliques ça? C'est parce que les insectes, du coup,
tout simplement, les coléoptères, ce que j'ai déjà dit dans une émission précédente, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas assez gros. Ils ont un problème
de taille.
C'est que de taille, c'est tout à fait ça. C'est qu'en moyenne, les coléoptères qu'on étudie, ils font entre 2 et 5 mm.
D'accord.
Et donc, c'est tout petit. C'est un défaut, ça mériterait d'être agrandi. Donc, soit on prend une loupe, soit on prend des imprimantes 3D qui permettent de les agrandir. Ça, c'est pas encore tout à fait d'actualité, mais ça aiderait d'un point de vue intégration dans la culture commune sur la biodiversité. Ils sont extrêmement nombreux, mais très discrets de par leur taille et puis de par leur mœurs. J'avais déjà dit que vous allez en forêt, même s'il y a beaucoup de bois mort, là, comme ça, à première vue, il n'y a pas des centaines de coléoptères qui se baladent, et pourtant, ils sont là. Et il y a vraiment des mœurs, c'est plutôt nocturne, c'est plutôt discret, ça se faufile dans les sous-bois. Il y a une façon d'étudier les coléoptères, et on est obligé de passer par la méthode de piégeage, en fait, pour les étudier. Et c'est là où on s'aperçoit, par le piégeage, que ce qu'on croyait être presque sans vie, une châtaigneraie ou une hêtraie, en fait, c'est extrêmement riche en coléoptères.
Et il n'y en a qu'une dizaine de protégés, mais est-ce que, du coup, il y en aurait... J'imagine qu'il y en a beaucoup plus qui nécessiteraient le besoin d'avoir ce statut de protection.
Oui, exactement. Ouais. Après, est-ce que c'est les espèces qu'il faut protéger ou une façon, en fait, d'exploiter la forêt qu'il faudrait étudier? C'est-à-dire que ça ne sert pas forcément à grand-chose de protéger une espèce, parce que ça veut dire qu'il faut absolument la trouver pour protéger la forêt, mais c'est plutôt avoir une réflexion. Dans cette forêt, on essaye de maintenir du bois mort debout, du bois mort au sol et des très gros arbres. Si on fait déjà ça dans n'importe quelle forêt, on garde un maximum de gros arbres dans une forêt, c'est déjà génial. Et si on garde tous les arbres morts, qu'ils soient couchés ou debout, c'est trois principes de base qui vont énormément améliorer la diversité en forêt. Et il y a un autre principe aussi, c'est multiplier le nombre d'essences en forêt. Ça, c'est un autre critère. Je pourrais revenir sur une prochaine émission dessus, sur les indices de biodiversité dans une forêt. Eh ben, si on a ces quatre-là, c'est déjà génial. Plein d'essences, du gros bois et des bois morts. Et là, on a... Donc, il vaudrait mieux protéger ça, en fait. Et là, si on protège ça, on protège nos forêts.
C'est vrai que le bois mort, qui, il y a quelques décennies, était assez mal vu par les forestiers, est de plus en plus protégé et pris en compte dans les aménagements forestiers. Et ça fait partie maintenant des habitudes des forestiers d'essayer de préserver ces beaux bois et bois morts au sol ou sur pied. Et
dans les marques de certification aussi, type EFC, ça devient obligatoire.
Et c'est de tout un intérêt, en fait, pour le forestier, parce que nous, on s'aperçoit que nos insectes les plus patrimoniaux, en fait, ce sont souvent des insectes qui sont prédateurs des ravageurs. Et ils sont très exigeants sur les conditions du milieu. Et souvent, ils nécessitent, pour s'installer, pour que la larve puisse trouver suffisamment de nourriture, ils ont besoin de très gros diamètres de bois. Donc, en fait, quand on garde très gros diamètres de bois mort ou vivant dans une forêt, on va accueillir davantage de prédateurs de nos ravageurs qu'on redoute. Et si on a tendance à standardiser notre forêt, en fait, on limite la capacité de la forêt à répondre aux attaques des ravageurs. Donc c'est toute une réflexion à avoir. Voilà le petit topo. Après, je pourrais parler des centaines d'espèces de coléoptères. Aujourd'hui, on n'a pas loin j'avais déjà dit des chiffres, mais on est autour de 2000 espèces de coléoptères dans le parc des Cévennes. Mais d'après nos calculs, on aura certainement à la fin de nos études autour de 5000 espèces potentielles. Pas que xylophages, évidemment, mais donc c'est encore un très gros travail d'inventaire. Mais c'est passionnant.
Bonne énergie. Merci Aymeric.
Voilà, à bientôt.
Merci Aymeric, à bientôt. Vous êtes toujours sur Radio Barthes, 107FM. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part par mail à l'adresse suivante, corto@radiobarthes.net. À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthes
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.